Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons évoquer le thème de l'affirmation de soi dans le respect d'autrui. Ces deux notions ont l'air apparemment contradictoires. En réalité, elles ne sont pas contradictoires puisqu'elles vont très bien ensemble. On ne peut pas avoir l'une sans l'autre. Ça a l'air de s'opposer. En réalité, si l'on croit que ça s'oppose, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit quand on parle de communication. Nous sommes à une époque, en principe, où on parle beaucoup de communication. Ça fait 30 ans que ça dure. Ça fait 30 ans que nous parlons de communication et pourtant, on a l'impression qu'on ne sait pas trop ce que c'est que cette communication. On laisse tomber les technologies aujourd'hui qui nous permettent d'échanger avec beaucoup plus de commodité qu'autrefois, mais la technologie n'a pas rendu communicants des gens qui ne l'étaient pas. Ils permettent simplement aux individus qui sont déjà communicants de s'affranchir des barrières du temps et de l'espace, ce qui est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas ça qui rend les gens communicants. Être communicant, c'est avoir une ouverture d'esprit avec autrui. À quoi peut-il servir de s'affranchir des barrières de l'espace et du temps si, quand on arrive à destination, l'esprit de l'individu, de l'interlocuteur, n'est pas ouvert? Donc, si les individus ont une ouverture d'esprit au départ, eh bien, nous aurons cette communication. Être communicant, vous remarquerez, étymologiquement, ou du moins dans l'usage, ça veut dire être ouvert. Deux pièces communicantes, c'est tout simplement des pièces qui ont une ouverture entre elles. On pourrait dire que des individus communicants sont tout simplement des individus qui ont une ouverture d'esprit entre eux. À ne pas mélanger avec des tas de situations dans la vie qui ne sont pas des moments de communication. C'est vrai que quelque part, on aime bien dire qu'on ne peut pas ne pas communiquer. L'école de Palo Alto nous dit cela. Il y a d'autres écoles aussi qui disent cela. On ne peut pas faire qu'il n'y ait pas d'informations entre les êtres, mais on peut très bien faire qu'il y ait des informations sans qu'il y ait cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire sans qu'il y ait de communication. C'est ce que j'appelle plutôt des relations. Ça attache les gens et ça les met dans des situations assez complexes. Alors, l'affirmation de soi dans le respect d'autrui, normalement, définit exactement ce qu'il est souhaitable pour être dans la communication. Un individu, les individus que nous sommes, avons généralement quatre attitudes différentes face à l'environnement. Nous pouvons soit avoir une attitude de fuite. Il est évident que la fuite, ce n'est pas de l'affirmation de soi, mais on se débrouille comme on peut. Quelquefois, c'est la moins mauvaise solution qui est à notre disposition. Il y a une autre démarche, qui est la démarche de manipulation. La manipulation, ce n'est pas du respect d'autrui, c'est sûr. Ce n'est pas vraiment de l'affirmation de soi non plus. C'est une tentative d'avoir un petit peu un pouvoir sur l'autre, mais sans en avoir l'air, un petit peu peur d'être vu, et puis tenter de ne pas se laisser avoir non plus. Donc, ce n'est ni de l'affirmation de soi, ni du respect d'autrui. Il y a aussi l'agressivité, et l'agressivité, évidemment, ce n'est pas du tout du respect d'autrui. Ce n'est pas non plus de l'affirmation de soi. On a l'impression que quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un qui s'affirme. En fait, plus quelqu'un est agressif et destructeur, plus il marque par là même qu'il manque d'affirmation de soi. Ça peut paraître curieux. Moins quelqu'un a d'affirmation de soi, plus il aura besoin d'attaquer. Il y a deux façons de gérer son manque d'affirmation de soi. Soit être dans une grande timidité et mettre de la distance, se cacher, soit être agressif. Mais dans les deux cas, que quelqu'un soit très timide ou très agressif, ce sont deux personnes qui manquent profondément d'affirmation de soi, sauf qu'ils le gèrent avec une technique complètement différente. Alors nous venons de voir donc plusieurs attitudes. Nous avons cette fuite, cette manipulation, cette agressivité. Et la quatrième attitude, ça s'appelle l'assertivité. Le mot assertivité, alors là, il n'est pas galvaudé, tellement pas galvaudé qu'il est assez peu connu. On ne le trouve même pas dans le dictionnaire, dans quelques-uns, quelquefois, même pas dans tous les dictionnaires psy, même si on le trouve mentionné dans des ouvrages psy. Le mot assertivité définit exactement la notion d'affirmation de soi dans le respect d'autrui. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas galvaudé parce que le mot communication ne sait plus ce qu'il veut dire aujourd'hui. Il a beaucoup été utilisé pour définir justement des attitudes manipulatrices au point que le mot communication est devenu détestable dans l'esprit d'un certain nombre de personnes. Dans la vraie communication, dans ce respect d'autrui et dans l'assertivité, il n'y a en principe aucune tentative de pouvoir sur notre interlocuteur. Toute attitude de pouvoir ne peut pas être une attitude de communication et il n'y a pas non plus d'attitude de déni de soi, de négation de soi, car souvent on a l'impression que pour pouvoir s'affirmer, il s'agit d'avoir un petit peu d'abnégation. Alors on va définir ces deux notions d'affirmation de soi et de respect d'autrui. Ces deux notions, elles méritent vraiment d'être précisées parce qu'on les mélange. Par exemple, l'affirmation de soi, D'abord, la définition, l'affirmation de soi, je le définirais comme étant l'accueil de soi, l'accueil de ce que l'on est. Mais ce que l'on est, ce n'est pas simplement ce que l'on est maintenant, ce que l'on est, c'est aussi tout ce qu'on a été depuis qu'on existe et tous ceux dont nous avons été issus. Alors, tous ceux que nous avons été, ceux, vous l'écrivez C-E-U-X, tous les êtres que nous avons été à chaque instant de notre existence et ceux depuis que nous existons, on va, pour ne pas se tromper, dire au moins depuis la conception. Après, bon, après, c'est des affaires de philosophie que chacun décide quand est-ce que ça commence, mais on va dire au moins là. Et ceux dont nous sommes issus, et cet ensemble de ce que l'on est, de tout ce qu'on a été et ceux dont on est issu, constitue notre tissu psychique, constitue ce que l'on est, ce qui intérieurement fait notre construction. Et s'il manque un élément à tout cela, et il manque souvent des éléments, c'est jamais entier, parce qu'il y a des parts de soi qu'on n'aime pas trop, ou il y a certains de ceux dont on est issu, avec qui on est quelquefois un peu fâché, on a quelques griefs, eh bien s'il manque un seul de ces morceaux, à la place où il devrait se trouver dans notre tissu psychique, il y a un vide. Ce vide génère des pesanteurs, ce vide génère des handicaps. Si on faisait la comparaison par rapport au corps physique, quand il manque un membre, eh ben c'est moins facile. Alors évidemment, on peut très bien s'en sortir. On peut s'en sortir avec des béquilles, des fauteuils roulants, avec tout un tas d'appareillages et de prothèses. Mais il est évident que c'est moins pratique, même si la vie qui est menée peut être tout à fait riche. C'est quand même moins commode. Eh bien, sur la structure psychique, quand il y a un élément qui manque, eh bien, il va fatalement y avoir besoin de ces compensations. Il y aura un défaut d'affirmation de soi. Ce défaut d'affirmation de soi, on en a forcément, mais on en a plus ou moins. Il est bien rare qu'un individu ait pleinement accueilli tout ce qu'il a été depuis qu'il existe et tous ceux dont il est issu. Mais si des morceaux trop importants manquent, ça va être compensé avec de l'ego, qui est une sorte de tuteur, une sorte d'étayage, pour fonctionner malgré ce manque d'affirmation de soi, et c'est très bien. C'est très bien, mais par contre, c'est très coûteux en énergie et c'est pas extraordinaire en efficacité, mais c'est mieux que si on n'avait rien. C'est une sorte, j'appelle ça souvent un peu comme un yupala. Un yupala, vous savez, ce petit truc qu'on met, les enfants, ils ne savent pas encore marcher, on les assoit là-dedans, alors ils peuvent trotter sans savoir marcher. Ben, l'ego, c'est ça. On n'est pas encore dans l'affirmation de soi, mais on peut faire comme si. Mais bon. Alors quand vous voyez des gens qui la ramènent, qui se prennent pour quelqu'un d'important et qui ont beaucoup d'ego, ils sont sympathiques avec leur yupala. S'ils n'avaient pas ça, ils ne pourraient pas se déplacer. Et c'est très bien, ils arrivent à vivre à peu près quand même. Il y a aussi la personnalité. Et la personnalité, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas ce que l'on est. Enfin, moi, je ne le vois pas comme étant ce que l'on est, mais comme ce que l'on joue. Une sorte de stratégie sociale qu'un individu a mis en place pour s'en sortir dans certaines difficultés. Personnalité, ça va avec le mot personne. On aime bien dire, pour mettre de l'humanité, que les individus sont des personnes. Et le mot personne, il m'a toujours un peu ennuyé. Je me suis longtemps interrogé sur ce mot-là parce que ça veut dire en même temps quelqu'un et en même temps pas quelqu'un. Il a les deux sens. Peut-être c'est lié quand même à son étymologie. Ça vient de persona en étrusque. Persona signifiait masque de théâtre. Et au théâtre, vous avez très bien su distinguer qu'il y avait l'acteur, l'individu, et le personnage qu'il joue, qui lui est une fiction. Eh bien, le mot « personne » ne me convient pas pour désigner quelqu'un. Je préfère parler d'individu ou parler de quelqu'un que de nommer le mot « personne ». Et la personnalité, c'est davantage ce que quelqu'un joue par stratégie sociale, mais c'est judicieux aussi, ça lui permet de s'en sortir. Mais ce qu'il joue, ce n'est pas ce qu'il est. Et cette personnalité, elle peut être délicate, elle peut être destructrice, elle peut être peureuse. Quelqu'un qui est dans l'affirmation de soi n'a pas besoin de personnalité. Alors, quelle différence entre quelqu'un qui a de la personnalité et quelqu'un qui a de l'affirmation de soi ? Eh bien, celui qui a de la personnalité, on ne va pas dire la personnalité désagréable, parce que là, c'est clair que c'est très pénible, mais quelqu'un qui a une personnalité extraordinaire, merveilleuse, admirable, formidable, quelqu'un qui assure, à côté de cette personne, on est en même temps ébloui, et on se sent minable. Même si cette personnalité est agréable, elle est écrasante, involontairement destructrice. La différence avec quelqu'un qui a de l'affirmation de soi, c'est que celui qui a de l'affirmation de soi, il a juste de la présence. Il n'a ni besoin de se montrer, ni besoin de se cacher. Pas besoin de se mettre en avant, pas besoin de se mettre en retrait. Et aux côtés de quelqu'un qui a de l'affirmation de soi, on se sent existant, sécurisé, il n'y a pas de problème. L'affirmation de soi n'est pas du tout donc cet ego ou cette personnalité. On n'aura pas cette sécurisation face à quelqu'un qui met en avant des compétences, qui est brillant, on pourrait dire clinquant, même si c'est très attractif, ça n'amènera pas cette sécurité dont on a besoin pour un échange de qualité. Le respect d'autrui, eh bien, on va respecter quelqu'un dans la mesure où on est conscient que ce quelqu'un qu'on a en face de soi, ce n'est pas simplement ce qu'il nous montre, mais aussi tout ce qu'il a été depuis qu'il existe. Tous les individus qu'il a été depuis qu'il existe sont là, en face de nous. Nous ne les connaissons pas, mais nous sommes censés, si nous sommes dans le respect d'autrui, avoir une confiance inconditionnelle, comme dirait Carl Rogers, envers notre interlocuteur, pas seulement dans les soins, mais aussi tout interlocuteur dans la vie. C'est-à-dire que s'il fait ce qu'il fait, c'est en rapport avec tout ce qu'il a été, et tout ce qu'il a été a une valeur en lui, une valeur inestimable. Il y a des raisons pour lesquelles ça s'exprime de cette manière à ce moment-là. Bien sûr, nous ne connaissons pas forcément tout ce qu'il a été. Et aussi tous ceux dont il est issu, qui évidemment eh bien, ont une grande place dans sa structure psychique. Nous ne les connaissons pas non plus, mais nous avons confiance aussi dans le fait que tous ceux dont il est issu ont une importance, même s'il y a eu des douleurs, des fractures, des rejets, etc. Donc la personne qui est dans ce respect d'autrui va avoir cette dimension de l'autre en face de lui et le respecter en tant que tel, mais il ne va pas se nier. Le respect d'autrui n'est en aucun cas la négation de soi. Les deux grandeurs, affirmation de soi et respect d'autrui, vont ensemble où il n'y a rien. Je ne peux pas respecter l'autre si je n'existe pas. Pour respecter l'autre, il est fondamental que j'existe. Sinon, il n'y a rien en face de lui. Ça nous amène à une notion importante, c'est que dans ces échanges où il y a le respect d'autrui et l'affirmation de soi en même temps, eh bien dans ces échanges, ce qui est important, premier point, ce qui est important, les individus. Les individus comptent plus que les choses. Ça, vous savez, quand on dit les individus comptent plus que les choses, ça ne semble pas vraiment être un scoop, ça. En principe, si je vous demande, est-ce que vous considérez que les gens valent plus que les choses ou que les choses valent plus que les gens ? Vous ne peinez pas trop à vous positionner par rapport à ça. Mais ça, c'est théorique. On est extrêmement humain sur le plan théorique. Sur le plan idéologique, on est tous très bons. Enfin, il y en a même qui n'arrivent pas à être bons sur ce plan-là. Mais sur le plan idéologique, on arrive à peu près à être tous très bons. Par contre, dans le quotidien, nous avons un petit peu plus de mal. Dans un échange, est-ce que vous identifiez bien que deux personnes ayant un échange, on a des êtres, c'est-à-dire deux fois quelqu'un, par exemple un qui parle et un qui écoute, ça ce sont des individus, donc deux éléments, et un troisième élément, c'est l'information qui passe de l'un à l'autre. Cette information, c'est une chose, c'est pas quelqu'un. Eh bien, on va prendre, si on est dans l'affirmation de soi et le respect d'autrui, ce parti de dire que les êtres, ceux qui parlent, celui qui parle et celui qui écoute, sont plus importants que ce qui est échangé. Car si ce qui est échangé est plus important que les êtres qui sont en train d'échanger, nous basculons dans le culte de l'objet, l'objet information, l'objet idéologique, et à partir du moment où les objets comptent plus que les gens, ben ça pose problème. Alors évidemment, ça paraît monstrueux dit comme ça, mais regardez dans les conversations. T'as bien aimé ce film, toi ? Oh non, pas du tout. Ah, pourtant, c'était drôlement bien. À partir du moment où on veut convaincre l'autre que son point de vue est meilleur que celui de notre interlocuteur, eh bien, nous faisons passer le propos avant l'individu. Et ça, c'est une attitude extrêmement ordinaire, où chacun essaye de faire valoir son information pour trouver lui-même existence, sans se soucier de l'existence de l'autre. Mais quand on veut exister parce qu'on fait valoir ce qu'on dit, ça veut dire quelque part, on a une carence d'existence derrière. L'individu est censé compter plus que l'objet. Donc les êtres comptent plus que les informations. Ce qui définit une situation de communication, c'est une situation où quand vous parlez à quelqu'un, celui à qui vous parlez compte plus à vos yeux que ce que vous lui dites. À l'inverse, dans les situations relationnelles, ce qui est caractéristique, c'est que ce que l'on dit à l'autre compte plus à nos yeux que cet autre. Vous savez, on a l'habitude de dire aujourd'hui qu'il faut être vigilant par rapport aux sectes. Et c'est très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. La difficulté, c'est qu'en même temps, on nous dit que si on veut y arriver dans la vie, il faut être convaincant. Or, être convaincant, c'est commencer à faire la secte des deux qui pensent pareil. Et là, on est avec une contradiction. Comment d'un côté, on peut dire « faites attention à des institutions qui vont altérer la conscience de quelqu'un » et comment on peut recommander dans le quotidien d'avoir une attitude qui va altérer la conscience ou l'existence de son interlocuteur. Dans cette attitude, il n'y a pas de respect de l'autre. Donc, les êtres comptent plus que les choses, soit nous comptons autant que l'autre aussi, et l'autre compte autant que nous. Quand nous sommes dans un échange au niveau de la communication, nous sommes censés être présents. Présents, ça veut dire ici et maintenant, ici dans l'espace et maintenant dans le temps. Il est évident que quand vous parlez avec quelqu'un qui est physiquement là mais qui est ailleurs, c'est extrêmement gênant. Vous avez besoin qu'il soit là. Et si vous parlez aussi comme une sorte de boîte vocale tout en pensant à autre chose, les informations passent moins. Le respect d'autrui et l'affirmation de soi indiquent que vous êtes censé être présent face à votre interlocuteur, dans le sens ici et maintenant, et de faire en sorte que l'autre y soit. Car quand vous échangez avec quelqu'un, vous trouvez dans un système particulier, il y a quatre mondes. Quatre mondes, rien de moins que ça. Il y a le monde réel qui est autour de nous. On a vu qu'il y avait trois éléments, donc les deux individus et l'information. Ça fait trois éléments, de quelqu'un et une chose. Et nous avons quatre mondes. Le monde réel, qui est ce qui nous entoure et dont nous ne savons pas trop ce que c'est quand personne ne le regarde. Chaque personne qui voit ce monde réel, entre guillemets, se fait une représentation de ce monde en lui. Et nous le voyons à travers... toute notre histoire, c'est notre histoire qui fait cette perception de notre monde environnant. Selon ce que vous venez de vivre, vous ne voyez pas les choses de la même façon. Quand Victor Hugo, ayant perdu sa fille, disait « un seul être vous manque et dépeuplé », c'est pas vrai qu'il n'y avait plus personne, mais du fait qu'il lui manquait la personne principale, c'est comme si il n'y avait plus personne. Et nous remarquons bien que selon ce qui nous arrive, nous n'avons plus la même perception de ce qui nous entoure. Donc un individu se fait une représentation du monde qui l'entoure, puis se dit « tiens, je vais partager ça avec quelqu'un ». Pour le partager, il envoie une information qui est une sorte de copie de ce qu'il y a dans son monde, mais une copie pas tellement détaillée. Donc c'est un objet différent de son monde, qui lui-même est différent du monde extérieur. On a déjà trois mondes, hein. Le monde extérieur, le monde de l'individu qui parle, et puis le monde des informations où il se promène des tas de trucs et ça arrive chez l'autre. Et l'autre, recevant ça, va se construire une représentation dont il se dit, c'est sans doute ce que pense l'autre et c'est sûrement la représentation du monde réel. Le problème, c'est quand cet autre, il regarde le monde réel, il ne voit pas la même chose. Et ça, ça fait des conflits et certaines difficultés. Et ils vont se battre jusqu'à se dire, mais qui a tort et qui a raison? Ils ont raison tous les deux. Ils ont au plus profond d'eux-mêmes une raison de voir les choses comme ils le voient. Alors, connaissant cela, c'est comme s'il y avait entre le monde de notre interlocuteur et nous-mêmes, c'est comme s'il y avait entre ces deux mondes des portes. Il y a une porte de notre monde pour aller vers l'autre et une porte dans le monde de l'autre pour venir vers nous. Et il est souhaitable, si on veut être dans cette attitude d'assertivité, d'ouvrir notre porte à l'autre et que l'autre ouvre sa porte à nous-mêmes. Et c'est dans la mesure où ces deux portes sont ouvertes qu'il peut y avoir vraiment un échange, que nous sommes vraiment dans cet état vraiment de communication. Or, cet état de communication est quelque chose que nous rencontrons vraiment rarement dans la vie. Pour quelle raison ? Parce que nous avons souvent tendance à nous mettre à la place de notre interlocuteur, de penser pour lui, de faire même avec gentillesse des choses pour lui que nous pensons être juste pour lui. Retenez bien que quand on se met à la place de quelqu'un, on s'éloigne de lui, contrairement à l'apparence, car on ne rencontre que son propre imaginaire. Et quand vous êtes dans votre imaginaire, vous avez cessé d'être avec l'autre. C'est ce qui fait qu'il y a cette confusion où on dit « mettez-vous à la place pour être chaleureux » avec une empathie mal comprise, et puis après, gardez de la distance pour ne pas vous faire bouffer. Eh bien, l'attitude juste serait de savoir être distinct, donc jamais à la place, mais sans être distant, toujours très proche. La bonne distance, quand on est dans la communication, eh bien, c'est qu'il n'y ait aucune distance. À partir du moment où psychologiquement on met une distance avec quelqu'un, il n'y a plus de communication. Par contre, sachons être distinct sans être distant, c'est ce qui fera ce respect de l'autre. Alors, la difficulté, c'est que nous avons souvent peur en nous approchant de cet autre d'être affecté, et nous avons raison de craindre d'être affecté. Affecté, ça veut dire être bouleversé. Or, si nous nous rapprochons et si nous tenons compte de l'individu, nous ne sommes pas affectés, nous sommes touchés. Il est important, quand on va vers quelqu'un, d'accepter d'être touché par cet individu, sa présence, ce qu'il est, ce qu'il a été, ce dont il est issu, même si on ne les connaît pas, et ce qu'il est en train de dire, quoi qu'il dise, même s'il vous agresse, il est en train de parler de lui, de ses ressentis. Être touché par le fait que quelqu'un exprime ses ressentis et non pas affecté par le type d'information qu'il vous donne. Quand on est sur les choses, on est dans l'affect. Quand on est sur les êtres, on est touché. Touché, c'est une dimension de vie, alors qu'affecté, c'est une dimension mentale ou intellectuelle. Il ne s'agit pas du tout du même registre. Même en thérapie, il est important que le thérapeute accepte d'être touché par le fait que l'être qui est en face de lui se révèle, mais pas qu'il soit affecté par la les histoires compliquées, parfois extrêmement glauques et terribles, qu'il peut être amené à évoquer. C'est une rencontre de l'individu et non pas un voyage dans une histoire. Très important. Alors, la vie, comment se passe une existence? Eh bien, il semblerait que l'existence se déroule avec assez peu de cette communication, de cette assertivité, de cette affirmation de soi dans le respect d'autrui. Les modèles ne sont pas très fréquents. La vie commence, par exemple, avec un enfant qui il sort du ventre de sa mère. C'est un bon moyen pour venir au monde. Hein. Il sort du ventre de sa mère. Et quand il sort du ventre de sa mère, bah, déjà, il est surpris parce que juste avant, il avait tout, 24 heures sur 24. Et à partir de maintenant, bah, un coup, il l'a, un coup, il n'a pas. Donc, ça le surprend un peu. Il va falloir qu'il s'habitue. L'alternance. Hein. Après, c'est comme ça. Les trucs qu'on aime bien, c'est un coup, on les a, un coup, on les a pas. Il faut s'habituer. Alors l'enfant il couine un peu et comme il couine, il y a des gens aimants parce qu'on va essayer de parler que des gens avec qui ça se passe bien. On ne parle pas des zones de conflit, de guerre ou de pas de guerre armée, mais de guerre dans les foyers ou entre les gens qui n'arrivent pas à échanger, à se comprendre. En fait, l'enfant, quelqu'un va venir vers lui avec amour. Je ne sais pas si c'est de l'amour. On pourra en reparler tout à l'heure dans les questions. En tout cas, il va venir tendrement. On ne va pas prendre un mauvais parent, hein, quelqu'un qui serait méchant, trop dur, etc. Il vient pour faire quoi? Vers cet enfant qui pleure, ben pour l'apaiser, ce pauvre bout de chou. Et il vient pour le calmer, sauf que pour le calmer, ce n'est pas pour l'entendre. Ça commence pas bien. Mais c'est pas méchant. Alors c'est pas très facile, parce qu'entendre un pleur, se poser pour écouter un pleur comme si c'était une conversation, on n'a pas trop appris ça. Alors on va dire que c'est pas très facile. Alors l'enfant, il va grandir, et quand il est plus grand, bah des fois il tombe, il se fait mal, il se cogne le coude contre une porte, il se cogne le genou en tombant par terre, il pleure à nouveau, mais ce coup-là, il parle, il marche, il parle. Et cet enfant qui pleure, avec autant d'amour, on va vers lui, on lui dit « pleure pas, c'est rien ». C'est vrai que le gamin, il est un peu idiot, il pleure pour rien, alors on lui explique qu'il est idiot, on espère qu'avec ça, il va se construire et que ça va être beaucoup mieux pour lui. Ça continue, il a peur le soir, il a peur du loup. Mais il n'y a pas de loup, regarde, on allume la lumière, et quand on a bien montré qu'il faut vraiment être stupide pour avoir peur d'un loup quand il n'y a pas de loup, le gamin ayant compris qu'il était stupide, tout de suite on sent bien que ça l'épanouit, ça va l'aider à avoir confiance en lui, et donc à développer de l'affirmation de soi. Ah, les modèles, c'est pas facile. Après, il grandit, il devient ado. Quand il devient adolescent, il a des bleus non plus aux genoux mais à l'âme, parce qu'il y a des histoires de cœur qui sont parfois difficiles, et quand il est parti, ou quand elle est partie, et qu'il pleure, on lui dit « mais il faut pas te mettre dans cet état, c'était pas quelqu'un pour toi ». C'est vrai, il s'est mis avec n'importe qui, c'est dire, c'est vraiment complètement nul, le pauvre ou la pauvre. Et puis un perdu dit « de retrouver, c'est vraiment pas grave, faut que tu aies confiance ». Et en fait, sa peine, pour lui c'était juste la fin du monde, ou pour elle c'était juste la fin du monde, eh bien on ne l'entend pas. C'était pas très grave, il va travailler. Il va peut-être réussir un petit peu, puis dans le travail, on fait de la communication. Ça fait 30 ans qu'on fait de la communication dans le travail. Donc il y a des réunions, et dans une réunion, il dit « vous savez, il y a tel problème dans notre service. Oui, avec vous, il n'y a toujours que des problèmes. Eh bien, je vais vous dire, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. » Puis une fois qu'on a reçu ça, ben, ce n'est pas très facile pour dire ce qu'on a à dire sur le plan de son travail. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il a construit une famille, il a un mari ou il a une femme. Alors il rentre le soir ou elle rentre le soir. « Oh, je suis fatigué aujourd'hui. T'inquiète pas, tu vas te détendre. » Donc ça fatigue, ce n'est pas à peine qu'il en parle. Au boulot, ce n'était pas très facile aujourd'hui. Je me suis engueulé avec mon collègue qui n'a pas arrêté de m'agresser. « Oh, perds pas de temps à penser à lui, ça ne vaut pas le coup. Allez, viens, on va faire quelque chose d'agréable. » Et en fait, ce qui a été senti n'est toujours pas entendu. Puis dans des versions un petit peu plus subtiles, on va trouver par exemple une femme qui a fait une fausse couche. Et puis avec beaucoup d'amour, son conjoint va lui dire « mais c'est pas grave ma chérie, on en aura un autre ». Et le « c'est pas grave », elle l'a, parce qu'elle ne peut pas en parler en fait. Donc en fait, on s'aperçoit que même de la part de gens qui nous aiment beaucoup, il n'y a pas vraiment d'écoute. La personne, malgré tout, compense, on s'en sort. C'est ça qui est bien, c'est comme on peut compenser, on s'en sort à peu près. Mais on ne voit pas toute l'énergie que ça nous mange de compenser sans cesse. Un petit peu, c'est bien, mais si on compense trop, c'est éprouvant. Alors, en prenant de la maturité, on a nos enfants, on a nos petits-enfants, puis maintenant, avec la maturité, on s'autorise à dire un peu plus. Et quand on dit, on s'entend répondre éventuellement « oui, mais tu ne peux pas comprendre parce que ton temps, ce n'était pas pareil ». Bon, ce n'est pas grave, il y a quand même des compensations, la vie est agréable, on s'est construit, on va s'en sortir. Et puis le temps passe, et comme on a mené une vie qui quand même est pas mal, on s'est bien débrouillé, on a bien compensé, on a bien de l'énergie, on vit assez âgé, mais il est vrai que si on arrive à 95, 96 ans, 18 ans, on peut quand même être un peu fatigué et puis ne pas pouvoir se débrouiller tout seul, aller dans une institution. Là, on décompense hein, ce jour-là. Il n'y a plus beaucoup de possibilités de compenser. Donc, on est en face de soi. Mais ce n'est pas très grave parce qu'on est censé être accompagné par des professionnels. Donc, ça va bien aller. Ben, ça ne marche pas non plus. Hein. Si un jour, on n'a pas envie de manger, dis mais Comment venir et pas manger? Mais il n'y a pas quelque chose qui vous ferait plaisir, il faut manger un peu. Puis si un jour on se sent seul, on dit, mais vous n'êtes pas seul, on est là, puis vous aurez de la visite. Oui, mais mon fils, il vient qu'une fois par semaine. Ben oui, mais s'il vient qu'une fois par semaine, vous savez, il est très occupé, c'est déjà pas mal, il y en a qui n'ont pas de visite. Donc tout ce qu'il sent, il se le garde, encore une fois. Et on s'aperçoit qu'on a beau avancer, ça ne fonctionne pas, et la vieille dame ou le vieux monsieur qui pleure en réclamant sa mère, on lui demande, mais quel âge vous avez? Histoire qu'elle prenne conscience que sa mère est morte. C'est vrai, réclamer quelqu'un qui est mort, ça va pas, non? Et en même temps qu'on lui montre que c'est stupide, on lui fait perdre le peu de raison qu'elle avait, parce qu'elle était juste en train de la réclamer parce qu'elle lui manque, et c'est pas parce qu'elle est morte qu'elle n'a pas le droit de lui manquer. Et au lieu d'écouter son manque, on lui montre que c'est stupide. Puis il y a la personne qui dit, je veux retourner à la maison. Mais vous savez très bien que c'est chez vous ici, maintenant, c'est là chez vous, c'est plus votre maison a été vendue, c'est vrai, c'est idiot. Alors on lui explique que sa maison étant vendue, c'est idiot d'en avoir envie, etc. Puis jusqu'à la fin, il va mourir, il dit, je crois que je vais mourir, il dit, il ne faut pas dire ça. C'est-à-dire que du début à la fin, il n'y a pas tellement reconnaissance de cet individu. Eh bien, quand il y a des petits moments de communication, aussi modestes soient-ils, des petits instants d'affirmation de soi et de respect d'autrui, ce sont des moments de bonheur inestimables pour l'autre et des moments de bonheur inestimables pour nous. Un indicateur pour savoir si on est dans cette attitude ou si on n'y est pas. Alors, vous y serez plus facilement si vous avez plus votre attention sur les êtres que sur les choses. Si les êtres qui vous parlent comptent plus que les propos qui vous tiennent, et si les êtres à qui vous parlez comptent plus que les propos que vous leur tenez, et si vous-même vous existez aussi, vous êtes dans l'affirmation de soi. Alors ça ne se décrète pas tout à fait, pour tout un tas de raisons, mais qu'on abordera peut-être dans les questions. Par contre, si vous êtes dans cette attitude, vous ne dépensez aucune énergie. Ce n'est pas très compliqué. Si dans un échange, vous constatez que ça vous coûte de l'énergie, ben c'est que vous n'êtes pas dans l'assertivité, vous n'êtes pas dans l'affirmation et le respect d'autrui. Quand on dit communiquer c'est fatigant, écouter c'est fatigant, aider c'est fatigant, eh ben c'est qu'on n'est pas dans cette attitude, on a juste mis en place une idée de pouvoir dans laquelle on est contre l'autre au lieu d'être avec l'autre. Donc c'est un petit indicateur, un petit symptôme très simple. Dès que c'est fatigant, c'est qu'on n'y est pas. Ce n'est pas pour autant qu'on est mauvais, que tout est fichu, hein, heureusement, parce que ça arrive souvent quand même. Mais c'est intéressant d'avoir cette idée que quand c'est fatigant, c'est qu'on n'a pas été communicant. L'idée, c'est d'être vraiment dans cette rencontre de l'autre. Le projet, en fait, c'est la rencontre de l'autre. Quelqu'un se met en colère, vous agresse, ben, il est en train de vous parler de lui. Ben, vous lui demandez, t'es en colère, qu'est-ce qui se passe? Et puis vous l'aidez à parler de lui. Si vous l'aidez à parler de lui, ça désamorce tout à fait son agressivité parce que vous êtes ouvert et touché par le fait qu'il a besoin de dire ça. Si vous prenez mot à mot ce qu'il vous dit, ça vous agresse parce que vous croyez qu'il parle contre vous alors qu'il était en train de dire quelque chose sur son état à lui. Alors c'est l'art de rebondir, mais j'aime pas le mot rebondir, c'est l'art plutôt de s'ouvrir et d'accompagner l'autre dans ce qu'il était en train de faire, qui avait du sens, il avait juste besoin qu'on l'aide à accéder à ce sens. On pourrait, pour terminer la partie exposée de cette conférence, et puis après on va aborder les questions, bien remarquer que l'interlocuteur, quand il vous adresse quelque chose de vraiment douloureux pour vous, ça n'est douloureux que parce que vous croyez qu'il parle de vous. Si vous comprenez qu'il est en train d'évoquer quelque chose de son ressenti à lui, ça a tout de suite beaucoup moins d'impact. Et si vous avez cette attitude de l'aider à le dire, parce qu'il avait besoin qu'on l'aide à le dire, parce que lui-même s'était un peu noyé là-dedans, eh bien vous désamorcez une zone de tension ou de conflit. Bon, voilà ce que je vais vous dire sur l'exposé. Maintenant, si vous avez des questions, oui, ou que j'ai du mal à refaire la même phrase. L'idée, c'est que l'individu en face, quand il nous agresse, il me dit, de toute façon, t'es énervant, tu rends jamais rien, je te supporte pas. Eh bien, tu es insupportable, plutôt, il va parler de vous en parlant contre vous. Eh bien, au lieu de lui dire, oui, mais tu comprends, je fais ce que je peux, comme on le voit, par exemple, dans un service d'urgence hospitalier, on attend, bah oui, mais on est débordé, vous savez, l'autre n'a pas besoin d'une explication, il a besoin qu'on comprenne que c'est dur pour lui d'attendre. Il parle de lui. Eh bien, de la même façon, quand l'autre vous dit « vous rangez rien, il y en a marre, et puis tu me fatigues, je ne te supporte pas », il est en train de dire « tu sais, je ne me sens pas bien, là ». Donc, on va lui dire « ok, ce que je fais, tu ne le supportes pas, qu'est-ce qui est le plus gênant pour toi ?» On va l'aider à parler de lui, et si on l'aide à parler de lui, ça désamorce ses tensions. C'est vraiment une façon d'éviter un conflit. En plus, ça se fait sans aucune énergie. Si on s'aperçoit qu'on met de l'énergie, puis qu'on rentre dans une résonance intellectuelle d'arguments et de contre-arguments, là, on est dans la manipulation, voir l'agressivité et la tentation de convaincre. Je ne sais pas si ça répond, c'est pas exactement pareil. Hein. Ça va? Vous y retrouvez ce que vous cherchiez? Bien. Donc, on va passer aux questions. Et puis, n'hésitez pas à y revenir. S'il y a encore un truc qui n'est pas clair après l'avoir noté, je tâcherai de le clarifier.
Un peu mal construite, mais comment est-ce qu'on fait pour être parfait? Comment est-ce qu'on fait pour...
Ah, c'est bien ça. Super. Comment on fait pour être parfait?
Et comment, bon. Je ne sais pas moi, que ça vous arrive jamais d'être énervé?
Ah, très souvent.
Pas appliquer vos propres principes?
Non, très souvent.
Alors, expliquez-nous comment.
Alors, je vais vous dire, le premier pas pour la perfection, c'est très simple. Hein. Oh, ben si, allons-y, oui, vous avez prévenu que ça risquait d'être mal construit, mais c'est pas grave. C'est vrai que justement, le problème, c'est que nous aimerions tous être parfaits. Une sorte d'idéal du moi, un surmoi vachement puissant. On a envie d'être idéalisé. En fait, il faut bien comprendre, et d'ailleurs avec l'affirmation de soi, la différence entre l'affirmation de soi et quelqu'un qui se maîtrise. Celui qui a envie d'être parfait, c'est souvent quelqu'un qui essaiera de chercher la maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi n'amène pas la perfection. La maîtrise de soi n'est pas l'affirmation de soi. La maîtrise de soi, je rappelle ce qu'on veut dire, c'est la méprise de soi. Quelqu'un qui veut se maîtriser se méprise.
Car, développer un petit peu,
oui, je vais développer un petit peu. C'est assez surprenant, ça peut être choquant vu comme ça. Quelqu'un qui veut se maîtriser ne s'aime pas. Il essaye de remplacer ce qu'il est et qu'il rejette par autre chose qui lui semble meilleur. Quelqu'un qui s'aime est quelqu'un dans l'affirmation de soi. Quelqu'un qui s'admire n'est pas dans l'affirmation de soi. Celui qui veut être parfait a tendance à s'idéaliser, à s'admirer. Quelqu'un qui s'admire contemple une image idéalisée de lui-même. Et une image idéalisée, ce n'est pas ce qu'on est. Il s'idéalise pour ne pas se voir, car il ne s'aime pas. Quelqu'un qui s'idéalise n'est pas quelqu'un qui s'aime. C'est quelqu'un qui s'idéalise pour se masquer qu'il ne s'aime pas.
Oui, ça je comprends.
Mais comment on fait?
Quelqu'un qui ne se maîtrise pas, est-ce qu'on peut dire qu'il respecte les autres?
Quelqu'un qui ne se maîtrise pas. Alors, il peut être nécessaire de maîtriser nos actions. Par exemple, j'ai envie d'insulter quelqu'un, je vais éviter de le faire. J'ai envie de lui mettre une claque ou un coup de poing, je vais éviter de le faire. Je vais retenir mon geste. Combien de fois on se dit, celui-là, je lui tordrais bien le cou, et on ne le fait pas. Donc, on s'est retenu. Retenir ses actes semble juste pour la vie sociale. Par contre, si j'ai eu envie de lui mettre une claque, si j'ai eu envie de l'insulter, si j'ai eu envie de lui tordre le cou, il est intéressant, au lieu de me maîtriser, cette pulsion que j'ai en moi, que je l'écoute. Car c'est quand moi quelque chose a été touché, si je suis dans l'accueil de moi-même, dans le respect de moi-même, je vais aller regarder où j'ai été touché pour accueillir cette part blessée qui en moi s'exprime grâce à cet autre. Car grâce à cet autre, qui m'a touché intérieurement, là je suis touché, mais c'est pas tellement parce que quand il me parle, je peux croire qu'il parle de moi. Ça, c'est un premier piège. Mais quand j'ai compris qu'il parlait de lui, je peux quand même avoir un impact à l'intérieur. Et si j'ai cet impact, alors que j'ai bien compris qu'en fait il parlait de lui, c'est qu'il vient de toucher en moi, il me met en situation de transfert en quelque sorte, il vient de toucher en moi une zone de vie dans laquelle j'ai ressenti quelque chose d'analogue. En fait, il participe à m'aider à me rencontrer. Comme disait Pythagore, nos ennemis sont des rameurs qui mènent notre barque au port. Celui-là qui me fait ceci, qui me dérange, m'amène vers moi-même. Alors je vais maîtriser mon geste, parce que si je lui tords le cou, ça ne va pas bien le faire, ce n'est pas bon. Mais en même temps, si j'en ai eu envie, je vais écouter ce qui se passe en moi. Alors après, si je décide de jouer le jeu de la force et de lui casser la tête, chacun fait ce qu'il veut, il faut qu'il assure les conséquences, et puis il faut qu'il assure jusqu'au bout. Il est vrai qu'en dernier recours, l'usage de la force peut exister comme une sorte de signal d'alarme, mais rappelez-vous, c'est comme dans les trains, tout abus sera puni. Mais des fois, ça rend service, quand même. Alors, je n'ai pas répondu vers la perfection, si tant est qu'on peut parler de perfection. D'abord, quelqu'un qui serait parfait, ça serait discret, ça ne se verrait pas. Plus ça se voit, plus c'est suspect. Et ensuite, le premier pas pour aller vers la perfection, à supposer qu'elle soit atteignable, ce dont je ne sais rien, alors moi, je ne m'y situe surtout pas, le premier pas pour aller vers la perfection, c'est d'accueillir son imperfection et pas d'y remédier. Ça commence par un pas d'accueil et non pas par un pas de pouvoir. Toute dimension de pouvoir, le pouvoir sur l'autre, c'est assez détestable, on commence à s'en apercevoir. Mais le pouvoir sur soi, c'est un sacré piège aussi, car le pouvoir sur soi nous éloigne de nous-mêmes. Et une fois qu'on s'est éloigné de soi, on ne sait plus rencontrer les autres parce qu'on est trop fragile et trop en danger. Ce n'est pas du pouvoir, mais de la rencontre. Je ne sais pas si ça répond un petit peu. Donc, le premier pas vers la perfection, c'est d'accueillir son imperfection. C'est très modeste et c'est très simple.
La question, c'était vous, comment est-ce que vous en sortez ?
Eh bien, moi, des fois, je suis adroit, des fois, je suis maladroit, des fois, j'ai quatre enfants, j'ai su en engueuler un alors que c'est l'autre qui avait fait la bêtise. J'ai su des fois que ma femme me dise un truc et puis mal le prendre. J'ai su ne pas savoir dire ce que j'avais à dire aussi. Alors, la différence, c'est comme je connais ces enjeux, des fois, j'y reviens quand même. Je laisse pas ça en plan. Mais ça m'arrive, comme tout le monde, à plein de moments. Et puis, il y a des fois, j'ai pas envie non plus de rencontrer les gens, de les comprendre. J'ai envie d'être peinard, d'être un peu égoïste. Je sais pas si c'est normal, mais je suis comme ça. Et puis, ben, c'est tout. Je suis comme ça. Par contre, je ne cherche pas à m'en cacher, à m'en défendre, ni même à mes propres yeux, ni aux yeux des autres. Mais quand il faut être là, quand même, dans certains moments, je peux me poser et y être vraiment. Mais ça ne veut pas dire que j'y suis tout le temps. Je n'aurais rien contre un savoir y être tout le temps, mais ça, je ne sais pas faire. Bon, ça va, alors. Est-ce qu'il y a une autre question ? Il reste 5 minutes, donc vous avez le temps de demander autre chose. C'est le moment de demander un éclaircissement si je n'ai pas été assez clair tout à l'heure. Oui, le temps est à moi. Des petites situations, oui, allez-y.
Oui, c'est peut-être juste pour venir sur accueillir son imperfection et non pas y remédier. Si vous pouvez peut-être un petit peu plus développer.
Alors, si je vois, par exemple, que j'ai une tendance à avoir besoin de quelque chose. Par exemple, on va prendre une dépendance. Alors, il y a des dépendances alcooliques, ça c'est embêtant. Puis il y a les dépendances, par exemple, je ne peux pas m'empêcher d'allumer la télé quand je rentre chez moi. Bon, vous voyez, des addictions très très différentes qui n'ont pas les mêmes impacts. En fait, si j'en ai un peu conscience, si j'en ai pas conscience, je m'interroge pas. Bon, puis je continue comme ça et puis je me laisse descendre dans un état de dépendance par rapport à autre chose. Si j'en prends conscience, ça peut être bien comme ça peut être néfaste. Parce que quand j'en prends conscience, je me dis oh, c'est nul ce que je fais. À partir du moment où je me dis c'est nul, c'est foutu. Ce que je fais n'est pas nul, c'est une heureuse façon de compenser quelque chose qui ailleurs est en souffrance. Donc je ne vais pas maîtriser ce travers, je vais écouter, aussi bien si j'ai besoin de regarder la télé que si j'ai besoin de boire, je vais écouter en quoi cela est tellement important pour moi. Car derrière cela, il y a une part de moi qui m'attend. En fait, derrière ce qui a l'air d'être un travers, c'est juste une compensation ou un symptôme qui me dit « Coucou, tu sais, il y a une part de moi là qui fait coucou, qui dit « Est-ce que tu peux venir me chercher parce que ça fait longtemps que je t'attends ?» Que ce soit une part de moi-même qui ait vécu un événement il y a 3 ans, il y a 10 ans, ou que ce soit quand j'étais enfant, voire en situation prénatale, il y a même des parts de soi qui, dans le transgénérationnel, sont des choses qui ont été vécues par une autre personne, par un ascendant. Je vais vous donner un exemple. Une personne, un jour, j'ai donné cet exemple dans des articles de mon site, j'ai un site internet, il suffit de taper mon nom sur un moteur de recherche, vous tomberez dessus, dans lequel j'explique le cas d'une personne qui me dit je suis très embêté parce que j'ai une angoisse, je ne peux pas m'éloigner de la ville où j'habite de plus d'un ou deux kilomètres sans être prise de peur panique au point de rester sur le bord de la route. Et je lui demande s'il lui est déjà arrivé d'avoir une très grande peur, parce qu'avant, je lui demande quelle est la nature de cette peur, son ressenti. Parce que le premier truc, c'est de vouloir maîtriser pour s'en sortir. Je lui demande plutôt de l'écouter, d'écouter ce ressenti qu'elle a. Elle me dit, c'est comme si je ne pourrais plus jamais rentrer à la maison. Et ça, c'est très intéressant comme façon de le formuler. Et au lieu d'essayer de voir ce qu'il y a de mauvais dans ce raisonnement, moi j'ai confiance en elle. Je lui demande, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir cette peur dans votre histoire, une peur panique de ne pas pouvoir rentrer à la maison ? Elle me dit, non, je n'ai pas l'impression. Alors ça c'est rapide, parce que c'est un échange assez rapide. Ce n'était pas une consultation, c'était une conversation. Et je lui demande si c'est arrivé à l'un de ses parents. Et là d'un seul coup ça tilte, elle me dit, bah oui, ma mère, quand elle avait 9 ans, quand elle était enfant, sa mère est décédée, son père n'était pas très fiable, elle a été retirée du foyer, elle a été placée. C'est comme si à chaque fois qu'elle avait peur, c'était pas quelque chose à maîtriser, mais l'enfant de 9 ans qui était sa mère, qui restait à entendre, car personne ne l'avait écouté. Donc ça n'est pas de la maîtrise, mais de la rencontre. Ça change beaucoup le regard sur les symptômes que nous pouvons avoir. C'est une démarche de rencontre et non pas une démarche de pouvoir sur un truc mauvais. C'est plutôt une démarche de rencontre sur une part de l'être infiniment précieux qui n'a jamais été entendu depuis ce temps. Le nombre de fois dans mon cabinet, je vois des personnes faire des émergences comme ça, C'est extrêmement touchant, je suis profondément touché quand je vois cela. C'est comme si je voyais un être jusque-là toujours au cachot, d'un seul coup avoir le droit de venir au jour et à l'air et pouvoir prendre son souffle. Ce n'est surtout pas du combat. Par contre, le symptôme ou le mal-être ou la pulsion de violence disparaît aussitôt que ce qui devait être entendu est entendu. Donc après, son symptôme étant parti, elle a pu sortir sans cette crainte, sans cette angoisse. Je pense, un dernier exemple par rapport à ça, une personne me pose cette question apparemment anodine. Je suis embêté parce que je suis agressif. Dès qu'on me parle, j'ai envie de rentrer dans l'art. C'est quelqu'un qui travaille dans un service d'accueil, ce qui était donc, ça c'est un certain concept des ressources humaines, de mettre quelqu'un comme ça à un poste comme ça. Enfin, bon, c'est... Et elle me dit, j'aimerais bien quand même y remédier. Je lui demande, qu'est-ce que vous ressentez quand on vous adresse la parole? Elle me dit, j'ai l'impression qu'on va me demander plus de choses que je peux en faire. Ce qui n'est pas très original dans un monde professionnel. Et je lui demande si dans sa vie, il lui est arrivé qu'on lui demande plus de choses qu'elle peut en faire, mais de façon poignante. Elle me dit, mais oui, j'étais gamine, à 5 ans, je me suis occupée de mes frères et sœurs parce que ma mère est en hôpital psychiatrique. Je lui demande si elle sait pour quelle raison sa mère est en hôpital psychiatrique. Et là, elle est assez bouleversée. Et elle me dit, en fait, quand elle était petite, son père a abusé d'elle. Donc on fait un cheminement thérapeutique pour essayer d'entendre cet enfant qui était la mère quand le père a abusé d'elle. Puis elle me dit, oui, mais mon grand-père, il m'a fait la même chose, moi, un jour. Alors on écoute l'enfant qu'elle était, qui a été abusé. On écoute l'enfant qui était la mère, qui a été abusé. Et une fois que ça s'est fait, la violence disparaît. En réalité, à chaque fois qu'elle sentait cette réaction de violence, c'est comme si cette part de sa vie l'appelait. Alors, pour faire court et rapide, par rapport à ces deux situations de vie qui sont des situations quand même tragiques et extrêmement douloureuses, notez bien que ces situations ne sont dramatiques que par l'événement. L'être qui s'y trouvait est infiniment précieux. Et ne mélangeons pas les êtres et les circonstances, car si on mélange les êtres et les circonstances, quand on dit c'est horrible en pensant à ça, c'est qu'on est en train de mélanger ce qui est arrivé avec celui à qui c'est arrivé. Or, ce qui est horrible, c'est ce qui est arrivé, ce n'est pas celle qu'elle était. Ça, c'est très important. On ne mélange pas les choses et les êtres. C'est la façon de s'en sortir. Si on mélange les choses et les êtres, on finira par mépriser cette zone de vie et celle qui s'y trouvait aussi. Et donc, le symptôme va plutôt s'ancrer.
Et comment est-ce qu'elle va faire pour que son enfant n'ait pas le même symptôme que les autres ?
Dans la mesure où ça a été entendu, c'est très libérateur pour tout le monde. C'est très libérateur pour tout le monde parce que quand on a eu fait ce travail, elle a même entendu la douleur du père qui avait eu une vie difficile. Et elle m'a dit cette sensation très curieuse, non seulement je me sens moins tendu, mais j'ai l'impression d'avoir réuni tout le monde dans la famille. Car on ne peut pas s'apaiser en jetant des membres de la famille qui font partie de notre tissu psychique. Mais nous ne pouvons pas non plus accueillir des membres de la famille au détriment de ce qu'on est. Ça aurait servi à rien qu'elle comprenne ce père si elle n'entend pas la douleur de la mère ni la sienne. Tout le monde doit être entendu. Et il n'y a pas de priorité, on va là où c'est ouvert. Et dans la mesure où ça a été vu, il n'y a aucune raison que ça continue. Il faut bien comprendre que ça ne continue pas à cause de ce qui s'est passé. Ça, c'est très important de comprendre ça. Ça ne continue pas à cause de ce qui s'est passé. Ça continue spécialement pour qu'on n'oublie pas un jour d'entendre celui qu'on n'a jamais entendu. Ne mélangeons pas. Hein. Ce n'est pas à cause de ce qui est arrivé que ça continue. C'est spécialement pour qu'un être ignoré soit enfin révélé. Spécialement pour quelqu'un et non pas à cause de quelque chose. Ça change vraiment le regard sur les sources pathologiques qu'il y a en nous. Ce n'est pas de la pathologie, c'est, on va dire, c'est de la mise au monde. C'est de la mise au monde. Et cette affirmation de soi, on l'a d'autant plus, eh bien, qu'on a davantage mis au monde des parts de soi. Et on est d'autant plus dans ce respect de l'autre qu'on a conscience qu'en l'autre, il se joue les mêmes enjeux et que quand il fait quelque chose de désagréable, il ne fait que parler de tous ces enjeux qui sont en lui. Que ce soit des enjeux dans l'actuel, dans la période présente, ou que ce soit des enjeux qui se situent dans son histoire de façon très ancienne. Notez bien que ces enjeux qui sont dans son histoire, quand on parle par exemple de l'enfant de 9 ans qui était sa mère, ou quand on parle chez l'autre de l'enfant qui était la mère et qui était violée par le père, et elle-même en tant qu'enfant qui était violée par son grand-père, il faut bien comprendre que tout cela n'est pas dans le passé. L'enfant qu'elle était et l'enfant qui était sa mère n'est pas dans le passé, c'est avec elle et ça n'a jamais cessé d'y être depuis que c'est arrivé. Ce n'est pas un voyage vers le passé, ce n'est pas un voyage vers les événements, ce n'est pas un voyage dans le temps, c'est un voyage vers un individu qui n'a jamais été entendu. Ce qui fait que cette rencontre n'est même pas bouleversante émotionnellement pour elle, mais elle est très touchante jusqu'à amener des larmes, mais elle n'est pas bouleversante émotionnellement car à aucun moment elle ne retraverse ce qu'elle a vécu, mais elle va aider celle qu'elle était quand ça a été vécu, ce qui est très différent. Ce n'est pas régressif, elle ne redevient pas, elle ne réexpérimente pas, mais elle rencontre et elle accompagne. Voilà. Je ne sais pas s'il reste du temps. Petite question, on est juste. Une dernière, alors j'ai essayé d'être rapide. On a 2 minutes.
J'ai une question, j'ai une constatation. J'ai constaté que, si je parle de moi, de mon expérience, que quand quelqu'un me parle, assez souvent, il me parle de son histoire. Et j'ai l'impression. Et après, j'ai tendance à comparer, dire la même chose. Et ça m'a fait un peu tilt.
Ah, d'accord.
Et que d'autres aussi comparent par rapport à ce que l'autre.
C'est une grande mode, ça, oui, oui. Il y a un grand club, là, vous en faites partie.
Ma question est, en fait, pourquoi ?
Pourquoi avons-nous tendance à reprendre ce que dit l'autre ? Quelqu'un arrive, il dit : j'ai un de ces mal de tête aujourd'hui. Ah, c'est comme moi la semaine dernière. Et dans les jolies choses aussi, j'ai vu un joli film ce week-end. Ah ben moi je vais au cinéma là bientôt, je vais aller voir ça. C'est-à-dire qu'en fait vous commencez à parler de vous et l'autre il se met à parler de lui. Ce qui fait cela, c'est que tout. Vous rappelez, j'ai écrit qu'à de la naissance jusqu'à la fin de la vie, nous avons du mal à être entendus. Et comme tous les êtres ont du mal à entendre, c'est-à-dire nous-mêmes, hein, nous sommes en quête de reconnaissance. Nous aimerions que des gens nous entendent. Ce qui fait qu'à chaque fois que quelqu'un parle de lui, on a tendance à dire coucou, je suis là. Donc, en réalité, ce qu'il y aurait à faire, c'est pas de se battre contre cette attitude, mais plutôt de se dire, est-ce qu'il n'y a pas en moi une part de moi-même qui aurait besoin d'exister un peu plus, et donc lui donner cette place. Pas en reprenant ce qu'ont dit les autres, il y a d'autres moyens de le faire, et davantage dans l'écoute au plus profond de vous-même. Ce qui est super, c'est d'en être lucide. Par contre, je vous demande de pas combattre ça, mais d'écouter plutôt pour quelle raison. Et la raison, alors il y a peut-être à regarder de façon plus spécifique, il peut y avoir des raisons différentes chez chacun, mais quand même, souvent, cette pulsion qu'il y a à surenchérir, c'est « j'existe », le besoin de dire que « j'existe ». Et puis, prenez l'habitude, quand vous communiquez, peut-être aussi de bien vérifier si vous parlez pour soulager, parce que des fois, on dit « je parle parce que j'ai besoin de parler ». Merci si vous venez de faire votre besoin. Ce n'est pas un besoin que l'on fait, c'est quelqu'un qu'on rencontre. Et quelquefois, quand on parle par besoin, c'est vrai que bon, c'est pas très net, quoi. Ça laisse pas la place propre. Hein. Vous êtes prié de laisser l'endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en arrivant. Et ben oui. Donc essayez de voir si vraiment vous vous adressez à l'autre. Parce qu'en fait, il y a tellement à vivre dans la rencontre. Quand on rencontre vraiment l'autre, ça nous donne existence à soi. Et plus l'autre se sent exister, plus il vous voit. Il vous rencontre. Par contre, plus vous essayez de revendiquer que vous êtes important et plus vous le rabaissez en prenant sa place, plus il va se battre aussi, moins il va vous accorder existence. Retenez bien ça, plus vous accordez existence à quelqu'un, plus en retour il vous accorde existence. Donc c'est une façon d'avancer un petit peu. Puis avec des courniers, des courniers pas, comme j'ai répondu à monsieur, moi des fois j'y suis, des fois j'y suis pas, je me prends la main dans le sac à le faire aussi. Hein. Je fais un peu partie du club aussi par moment. Hein. Mais ce qui est important, c'est d'en être lucide, pas de se battre contre ça, mais d'en être lucide. Bien, je vous remercie. Et puis, si vous avez besoin de réponses, ben, on se verra peut-être.